Les vendredis, dans Gravel dans le retour, on jase de sport. Mais surtout de la vie avec notre chum Pierre-Houd. Gravel dans le retour avec Denis, Véro, Audrey et Pierre-Houd.
88-971-1021 pour nous rejoindre s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs. On vous souhaite un bon vendredi, un bon début de week-end. Week-end qui est déjà commencé aux États-Unis. C'est le Thanksgiving américain. C'est pourquoi il y avait des games de football toute la journée hier. Et vous vous dites peut-être que pour un touriste, ça peut être intéressant d'être aux États-Unis pendant le Thanksgiving. Ben peut-être pas. On va le demander d'ailleurs à notre chum Pierre-Houd qui vit son Thanksgiving en plein cœur de New York. Salut Pierre!
Salut Denis, bonjour Audrey.
Allô.
Bonjour à tous. Ben écoute, il y a des nuances dans l'appréciation ou dans le fait d'être aux États-Unis comme, non pas comme touriste, mais comme voyageur professionnel.
Oui, oui.
Parce que c'est très différent que d'être touriste. Et les nuances, elles sont quoi? Elles sont la réalité de chaque ville où on est, la météo, et ça, c'est vraiment... Moi, écoute, ça fait plus que 50 ans que je voyage pour mon métier ou mes différentes professions, et je réalise encore plus à quel point la météo est un facteur pour apprécier une ville en tant que visiteur.
Ouais.
Ça, vraiment, c'est la grande différence. En fait, c'est une des grandes différences, mais il y a un fil conducteur quand même, et tu l'as bien expliqué, le jeudi de l'Action de grâce américaine ou de la Thanksgiving, comme le disent nos amis anglophones, eh bien, c'est vraiment un défi. Je vais le dire comme ça, là, presque un défi quand on est visiteur dans peu importe où on est aux États-Unis.
C'est la fête familiale par excellence et ça veut dire qu'il y a bien des restaurants et la plupart des commerces sont fermés. Moi, je l'ai vécu en tant que vrai touriste à Boston, puis j'avais pas pensé à ça le Thanksgiving. C'était juste un concours de circonstances. Sauf que quand t'allumes à la dernière minute, Pierre, puis qu'il faut que tu manges au moins deux fois dans la journée, là,
c'est plus difficile un peu.
Ouais, je me sentais dans la jungle, même au cœur de Boston. C'est quand même un feeling particulier. Puis tu parles de la météo. On a regardé les story Instagram de notre collègue Véro qui est à New York depuis hier. Il mouille pas mal, hein?
Ben là, c'est très beau au moment où on se parle, parce que c'était prévu. C'est très beau, là. Il y a quelques cumulus présentement, mais le ciel est vraiment dégagé. C'était prévu comme ça, puis les températures tombent, évidemment, avec ce beau temps plus sec, mais plus frais qui arrive. Mais hier, c'était vraiment désolant. C'était, même en atterrissant très tard, en arrivant de Columbus, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'était terrible, vraiment. Beaucoup, beaucoup de pluie. On prévoyait autour de 16 millimètres. Moi, je pense qu'il en est peut-être tombé un peu plus, peut-être une vingtaine de millimètres. Ça fait partie de la réalité d'hier. Puis, quand je parle de la réalité de chaque ville, ben au moins New York a son défilé qui, moi, me fait toujours craquer. Je redeviens vraiment un enfant, là. Je parle du défilé de Macy's.
Ben oui.
Ben oui, c'est commercial. Puis ben oui, c'est une grosse pub pour Macy's. Et un coup qu'on a dit tout ça, puis après qu'on a accepté tout ça, ça demeure quand même éblouissant. Mais d'avoir vu ça hier dans la flotte, et surtout le début du défilé, là, hier matin, dans ce déluge...
Ça a-tu quand même pogné ou...
Ben, écoute, j'y étais pas. Audrey, nous, on est au pied, nous, du World Trade Center. Donc, on est très au sud de l'île de Manhattan. Là, on est presque à Battery Park. Et donc, j'ai pas pu voir de mes yeux. J'ai juste vu ce que vous avez vu à la télé, si vous avez regardé, là. Mais moi, mon premier réflexe a été de lever mon chapeau à tous ceux qui devaient livrer une performance. Parce que il y avait quand même de grands artistes à chaque moment où on s'arrêtait, là, pour la télévision. T'avais les fanfares. T'avais, évidemment, ceux qui devaient opérer les magnifiques structures flottantes et ainsi de suite. C'était tout un défi hier. Alors, c'était certainement mieux et plus agréable à la télé qu'à être sur place, parce que au début surtout du défilé, Audrey, là, c'était épouvantable comment il pleuvait ici, là.
Pierre, tu nous as montré la vue de ta chambre d'hôtel. Quand tu dis que tu es à côté du World Trade Center, tu peux pas être plus à côté que ça. Puis tu as une vue, mon Dieu, que je qualifierais d'historique sur la ville de New York, là.
Et ça donne toujours des émotions, Denis. Faut que je te raconte ma première visite ici après les les événements tragiques du 11 septembre. Oui. Moi, je suis venu ici le 11 novembre.
OK.
Donc, c'est pas tellement compliqué, là. C'était exactement 2 mois après le drame. Et on était loin, et nous, on habitait vraiment dans Times Square. Hein. Mm-hmm. On avait un hôtel à l'époque où le Canadien allait souvent, qui faisait face à tous les écrans géants oui. illuminés à Times Square. Et écoute, je veux pas fabriquer du drame, mais je vais toujours me rappeler, aussitôt que quand j'arrive à l'hôtel pour faire mon enregistrement, la préposée me dit « Voilà, M. Wood, votre chambre, c'est le 911, le 911. »
Oh mon Dieu! Ouais.
Ben, en partant, là, je vais t'avouer que ça m'a glacé. Puis la préposée me regarde, puis elle a compris, puis elle a dit « Ouais, je vous comprends. Voulez-vous une autre chambre? » Je dis « Non, non, non. » Non, mais elle a respecté. J'aurais pu être très superstitieux, puis uh-huh. tout ça. Et elle a respecté ça. Et je travaillais avec Yvon Pedneault à l'époque. Et j'ai dit à Yvon, on avait une journée de libre le lendemain. Et donc, c'était la grisaille un peu de novembre. Et j'ai dit, Yvon, est-ce que ça te tente qu'on parte de notre hôtel? On va descendre l'avenue des Amériques le plus bas possible, puis on va se rendre le plus proche possible de Ground Zero, parce que, pas pour être voyeur, mais pour le voir, pour être sensibilisé à l'ampleur de l'événement.
2 mois après les événements, est-ce qu'il y avait encore un grand périmètre de sécurité autour de ce qui était les tours du World Trade Center?
Tout autour, oui, Denis. Ouais. Mais en même temps, j'ai été étonné par la facilité avec laquelle on a pu s'approcher. Et tu sais pourquoi je l'ai constaté par la suite? C'est que même 2 mois après l'événement, c'était encore trop tôt pour qu'on ait organisé, comment dire, donc, la vie autour. Je ne sais pas si tu comprends ce que
oui,
je veux dire.
Mais oui.
Il y avait encore trop à faire sur le site même.
Tellement de nettoyage en partant. Là.
Et encore de la recherche. Oui. Et encore, tout ce qu'il y avait à faire d'humainement possible par les êtres humains, avec l'ampleur matérielle, du dégât matériel. Donc, on pouvait s'approcher beaucoup plus près que je croyais. Et puis, à mesure qu'on s'approchait, ce qu'on voyait cependant, c'était des immenses cônes. Je ne parle pas des cônes oranges de Montréal. Je parle des immenses cônes qui devenaient littéralement des cheminées au-dessus des trous d'hommes, puis des puisards, pour laisser encore sortir la chaleur.
Oh, mon Dieu, oui.
2 mois après,
c'est
imaginez-vous.
C'est complètement fou.
Laisser sortir la chaleur et la poussière. Et je m'excuse de le dire comme ça, mais j'ai toujours été honnête avec vous. On avait cette odeur de fumée, de chaleur, et probablement aussi de cendre humaine ou une odeur de mort, de calcination. C'était, écoute, je vous en parle, puis je m'excuse d'être peut-être un peu trop détaillé pour certains, là, mais on s'approchait et on avait les larmes, et rien n'avait été fait encore. Les fenêtres étaient littéralement bouchés par de la suie, par des cendres, par de la saleté. Tout à terre, rien n'avait été touché. On voyait des beaux petits commerces là, qui étaient complètement méconnaissables et on avait de la misère à les identifier. Et puis, on a regardé et on s'est recueilli et puis on a dit, bon, OK, on vient de comprendre ce que c'est. Et puis, on est retourné vers l'hôtel. Si vous me permettez... Pardon, vas-y, Audrey.
Ah, bien, en fait, je voulais pas te couper, Pierre. Je voulais juste te demander si ça se sentait auprès des gens. Tu sais, j'imagine que vous étiez là, vous deviez observer. Est-ce que la vie avait comme un peu repris autour de ça ou est-ce que les gens étaient encore bien marqués après 2 mois?
C'est une bonne question. Mais tu sais, dès que tu sortais un peu de Ground Zero, bien sûr que la vie avait repris. Qu'est-ce que tu veux? C'est New York. Mm. Alors, nous, à Times Square... la vie était ce qu'elle a toujours été à Times Square.
C'est hallucinant la rapidité à laquelle la routine d'une ville reprend son beat. Hein?
Ben, c'est parce que c'est la nature humaine, ouais. Denis. Avec cette masse humaine que tu as dans la région de New York, t'as pas le choix. Je veux dire, c'est bon, ça a pris la COVID pour garder tout le monde chez eux puis en dehors des rues. Mais puis la COVID a été, et on s'en rend compte, a été un drame à un niveau presque inconnu dans l'histoire de l'humanité.
Ouais.
Mais ça, ici, sur une petite base. Puis pour terminer mon histoire, on fait le match à New York, on retourne à LaGuardia. La préposée au comptoir d'Air Canada est une Montréalaise qui travaillait à New York. Elle nous a reconnus, puis on a parlé ensemble. Et puis, elle dit, bon, écoutez, je vous adore à RDS, je vous donne des meilleurs sièges, ça me fait plaisir. Et puis, son cellulaire sonne. Et elle devient blanche comme du lait. Et elle nous apprend que le Airbus 300 d'American Airlines vient de s'écraser au décollage de LaGuardia.
Mon Dieu.
Et que LaGuardia ferme sur le moment. On est 2 mois après les événements du 11 septembre. Et là, dans le temps de le dire, on a regardé tous les écrans de télévision se sont fermés en même temps. Policiers, militaires, agents de sécurité ont envahi le terminal en à peine quelques secondes. Les restos commençaient, toutes les concessions commençaient à fermer leurs portes. On ferme l'aéroport. Puis moi, mon réflexe, c'est d'appeler à RDS. Et là, écoute, c'est quand même en 2001. Là. Et là, mon réflexe, c'est d'appeler à RDS et dire, trouvez-nous une auto pour sortir de là, parce qu'on ne peut pas sortir en avion.
Ouais.
Faut qu'on trouve... On a trouvé la dernière voiture disponible chez Avis. On s'est en allé là, puis on s'est envenu en voiture. Et on se faisait dire entre-temps... on se faisait dire entre-temps, on va fermer les accès aux autoroutes. La ville va être barricadée parce qu'on était convaincus que c'était encore un acte terroriste.
Oui, oui.
Je peux te dire que j'ai piloté comme Charles Leclerc pour sortir de là. Et on a réussi finalement à quitter la région de New York et à aller vers vers les grandes routes qui nous amenaient à Montréal. Et on a fini par apprendre à la radio, plusieurs heures plus tard, que c'est un bris de l'aileron, c'est-à-dire c'est un bris de la queue de l'avion qui s'est carrément désintégré au décollage. C'était un vice de structure. Et donc, c'était absolument malheureux parce que ça évidemment, tout le monde est mort à peu près, ou je crois là que tout le monde est décédé dans cet accident. C'était extrêmement malheureux, mais ce n'était pas finalement relié à tout. Alors, je vous raconte ça un peu, c'est mon histoire personnelle. Dans ce fameux voyage, 2 mois après l'effondrement des 2 tours du World Trade Center.
Pierre, en fin de semaine, je trouve que vous avez 2 Moses de belles games en après-midi à RDS parce que c'est des tests pour toutes les équipes qui sont impliquées. Demain, le Canadien affronte les Rangers. Les Rangers, ça va pas bien. Et dimanche, moi, c'est la game que j'ai baptisée le match du Biggest Loser entre les Bruins de Boston et le Canadien de Montréal. Je suis sévère, les Bruins ont gagné cette semaine, le Canadien aussi, mais on a l'impression que dans un cas comme dans l'autre, les problèmes ne sont pas réglés. Mais d'abord, parlons des Rangers. Qu'est-ce qui se passe avec les Rangers de New York qui viennent de perdre, je pense, 4 matchs en ligne?
C'est 4 de suite. Ça a été un peu moins mal lors du dernier match, on le lit partout. Là, le match d'après-midi à 13h, les Rangers sont à Philadelphie contre les Flyers. Va peut-être en dire long sur l'avenir de l'équipe. Et là, si tu commences à regarder les informateurs dans l'univers du hockey, puis tu connais ceux qui sont très bons, là, Pierre Lebrun et puis Darren Dreger, notre collègue de TSN, on commence déjà à parler de joueurs qui sont sur le marché. Là.
Oui.
Des joueurs que les Rangers ne voient pas nécessairement dans leur avenir. C'est pas les moindres. Là. Il y a Chris Kreider dans cette liste-là. Il y a Jacob Trouba, l'arracheur de tête. Ça a sorti tout seul. Mais il le fait de façon très intelligente parce qu'il n'est jamais puni.
Ouais.
Et ensuite, tu as Capo Caco, qui n'est quand même pas banal. Là, c'est un choix de première ronde. C'est tout de suite après Jack Hughes. Et Caco est peut-être un peu coincé à New York. Alors, on tente le terrain pour voir s'il n'y en aurait pas qui serait intéressé à transiger pour les 2 vétérans dont je t'ai parlé ou pour le jeune Caco. Il est encore jeune. Puis là, tranquillement, si ça continue, on va commencer à parler de l'entraîneur La Violette. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne personne pour diriger une équipe talentueuse? Moi, je maintiens encore, Denis, que quand cette équipe-là joue comme elle doit jouer, c'est une des, sinon la meilleure de l'Est.
Bien, il y en a plusieurs qui disaient que c'était l'année des Rangers pour la Coupe Stanley. Puis j'ai posé la question à Max cette semaine. Je suis curieux d'entendre ton son de cloche là-dessus. Tant qu'à avoir un moment difficile en tant qu'équipe, quand tu aspires à la Coupe Stanley, après 20-25 matchs, c'est peut-être le timing idéal pour avoir un vrai creux de vague puis régler des problèmes s'il y en a dans une saison de 82 matchs avant des séries qui risquent d'être longues.
Ben, c'est-à-dire que si tu te rends à l'Action de grâce américaine avec une bonne fiche et que là, tu connais un creux de vague, ton commentaire est bon.
Okay.
Tu vas connaître ton creux de vague, mais tu as bâti ta base. Tu sais, je vais te donner un exemple extrême et qui est peut-être un peu odieux, mais tu prends Max Verstappen, s'il a été couronné champion la semaine passée,
oui.
C'est à cause de tout ce qu'il a bâti dans le premier tiers de la saison. C'est une domination. Alors, c'est, tu sais, les points que tu engranges en octobre et en novembre, on ne peut pas te les enlever. Je sais que c'est un vieux cliché, mais c'est comme ça. Sauf que il faut que tu sois, comme directeur général, capable de regarder objectivement s'il y a plus profond que ça. Toutes les équipes vont passer par des phases. Mais tu dois regarder s'il y a plus profond que ça, et c'est ce que les Rangers sont en train de faire présentement. Parce que la fameuse fenêtre, là, quand elle est ouverte, et que tu as un potentiel d'aller jusqu'au bout, il faut que tu sois honnête envers tes partisans et que tu fasses tout ce qui est possible pour profiter de cette fenêtre ouverte. Parce que regarde toutes les autres équipes qui essaient de remonter. Le Canadien est la plus jeune de ces équipes-là, mais regarde Ottawa, puis regarde Détroit. Mm-hmm. Yzerman, semble-t-il, avait trouvé la bonne recette à Détroit. Ça ne fonctionne pas à court terme pour les Wings. Buffalo, combien d'années exclus des séries, et ainsi de suite. Alors, les Rangers vivent avec cette pression-là. Mais je vais revenir sur le match de dimanche.
Oui.
Parce que toi, comme grand fan des Bruins, tu te dois d'oublier le match. Parce que nous, ce qu'on va vivre sur place, puis je vais avoir une bonne pensée pour toi, c'est qu'on va vivre toutes les cérémonies du centenaire des Bruins.
Oh!
On a choisi l'affrontement contre le Canadien pour célébrer le centenaire des Bruins. Est-ce que ce seront des cérémonies à la hauteur de celles du Canadien pour son propre centenaire? Tu t'en rappelles comment c'était émouvant?
Ben oui.
Moi, je pense que non. Je pense qu'on revivra. Moi, de mon vivant, je ne revivrai jamais ces cérémonies-là qui avaient été préparées par Ray Lalonde et qui avaient été menées de façon exceptionnelle par l'organisation du Canadien à l'époque. Mais on va quand même célébrer le centenaire d'une des 6 franchises originales dont l'histoire est tellement riche et tellement dramatique aussi à la fois si tu remontes à la guerre et à la fameuse Krautline, les 3 vedettes qui avaient accepté d'aller au front. Bref, tu peux remonter là très, très loin puis revivre beaucoup d'émotions dans cette histoire-là.
Est-ce que même pour des célébrations de cet ordre-là, il y a un temps alloué, là, sinon on paye une amende? Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas qui existait dans la Ligue nationale de hockey. Il y a une heure normale où le match doit commencer. Est-ce que ça fonctionne pour ça, même pour des cérémonies de centenaire?
Bien, en autant que ce soit annoncé d'avance et que tu respectes le scénario. Comme le match de dimanche, il est identifié à 15 heures. Mais 15 heures, c'est le début de tout le tralala, là,
okay.
de tout le processus de cérémonie. La mise en jeu va se faire autour de 16 heures.
OK. Wow. Okay.
Et donc, nous, à RDS, ça m'ouvre la porte, si tu veux, là, les cérémonies, on va les présenter intégralement sur rds.ca. Donc, si vous voulez les vivre, vous allez pouvoir les vivre sur notre plateforme web.
Super.
Parce qu'on tient à l'offrir. Mais évidemment, on ne tiendra pas l'antenne conventionnelle pour l'ensemble de ces cérémonies. Nous, on va commencer à 15h30 notre émission d'avant-match. On a déjà fait des demandes pour avoir Patrice Bergeron en entrevue. Ce serait tellement extraordinaire de l'avoir avec nous. Mais moi, je vais t'avouer, Denis, je vais le vivre avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, au-delà de la rivalité Canadien-Bruins. Uh-huh. Parce que oui, ça fait partie de l'histoire, mais c'est quand même une franchise qui mérite qu'on s'y arrête. Et qui a été excellente, et je le répète, qui aurait pu, dans les années de l'après-guerre, qui aurait pu dominer la Ligue nationale de hockey, mais parce que ses meilleurs joueurs ont tenu à aller au front, peut-être pas au front, mais du moins s'enrôler, ils ont connu un fort recul à ce moment-là. Et puis après ça, on connaît la grande relance des années 70 et les superbes années de Patrice Bergeron, David Krejci, Zdeno Chara, Tim Thomas et compagnie.
Je vous souhaite Patrice Bergeron et je nous souhaite Patrice Bergeron en entrevue au courant de la fin de semaine. Puis étant donné que c'est des cérémonies particulières puis que c'est un anniversaire qu'on va vivre une fois dans l'histoire d'une franchise, je pense que ça pourrait bien garnir la programmation autour de tout ça. Fait que rds.ca pour suivre les cérémonies en tant que telles. Puis les émissions d'avant-match vont commencer vers 15h30. Il y a un Grand Prix en fin de semaine, le Grand Prix
oui.
du Qatar. Tu as mentionné Charles Leclerc tantôt, c'est lui sur Ferrari qui a été le plus rapide aux essais libres. Le championnat des constructeurs n'est pas réglé, mais le champion a été couronné la semaine passée, Max Verstappen.
Oui, Verstappen a fait ce qu'il fallait pour être couronné champion. Puis je le disais tantôt, hein, ce championnat a été bâti dans le premier tiers de la saison, quand il a dominé les 7 premières courses. Mais à son crédit, puis c'est pour ça que j'aime ça avoir Patrick Carpentier le dimanche, pour nous donner le point de vue du pilote. Parce que Patrick, à un moment donné, a dit, moi, pour moi, c'est le championnat qu'il mérite le plus. C'est le championnat où il devrait être le plus fier de lui parce qu'il a eu à faire la différence avec une voiture qui, globalement, devenait pas inférieure, mais devenait moins fiable? Moins dominante que la concurrence, par rapport à la concurrence.
Fait que le facteur humain a eu son incidence cette année plus que dans les années précédentes.
Et ça, il y a bien des gens qui l'avaient oublié, peut-être, mais il a eu un très grand rôle à jouer. Puis je vais te donner la preuve de ce que Patrick dit. Il y a des éléments incontournables. Exemple, regarde où Verstappen a toujours été par rapport à Pérez. Pérez n'est pas devenu mauvais soudainement, là. Pérez a été moins capable, je pense, de compenser par lui-même le recul global de l'écurie par rapport à ses concurrents. L'autre chose, c'est qu'il a été couronné à Vegas en terminant devant Norris, mais il a réussi à dominer Norris dans des moments clés. Et Norris l'a dit, si je veux être champion du monde et je vais y arriver, il faut que j'arrête d'être intimidé par Max Verstappen. Il faut que j'arrête de lui laisser la porte ouverte. Puis en plus, c'est des bons habits. Il faut que j'arrête de lui laisser la porte ouverte.
C'est bon, ça.
Quand j'ai la pole, puis que lui est à côté, il réussit à passer. L'autre facteur, c'est sa performance dans le déluge, dans le Grand Prix précédent au Brésil. Il a été impérial. Et là, il a comme donné du lustre à une conquête qui était moins dominante que les trois autres. Et honnêtement, je sais qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté avec sa personnalité, mais je regarde comment il évolue, je regarde comment il s'adoucit, comment il devient de plus en plus, je dirais, réfléchi quand il parle.
Ça
sera jamais de machine. Oui, et il commence tellement à me faire penser à Michael Schumacher. Son parcours là, commence vraiment à me faire penser à celui de Michael. Michael a été souvent accusé d'être frondeur, arrogant, d'être inhumain, un bloc de glace. Enfin, tu te rappelles les commentaires. Moi, il commence vraiment à me faire penser.
Pierre, je comprends que tu nous laisses, mais ton contact n'est pas terminé pour la journée avec Gravel dans le retour. Comment?
J'ai dit, ah non, c'est pas terminé, loin de là.
T'as une date avec la première dame?
J'ai une date avec Madame la directrice.
Où est-ce que vous allez, Pierre?
Nous allons... Attends une minute, j'ai de la musique qui joue. Là. Attends une minute, là. C'est-tu mon téléphone?
On n'entend rien, si ça peut rassurer.
Ben écoute, c'est mon téléphone. Faudra que tu me donnes un cours, Audrey. Parfois, c'est ce que je dis, puis ça part.
Comme Siri, tu fais une commande.
Oui, c'est ça.
Bon. Fait que quand on parle de la première dame, c'est quoi qui part musicalement sur ton téléphone?
je reconnaissais même pas ça.
God Save the Queen?
C'est un petit reggae.
Okay. C'est donc bien drôle.
J'ai dit son don bien fait, ils mettent une petite musique. Non, ils font comme aux Oscars pour me faire taire quand la musique.
Mais quand la musique commence, c'est qu'il faut.
C'est assez, là.
Faut couper les
balances. Oh, c'est bon.
Hey Denis, je vais juste faire une parenthèse parce que c'est très important.
Oui.
On a confirmé cette semaine que Cadillac entre en F1, General
c'est
Motors.
C'est vrai, oui.
Ça, c'est énorme. Bravo, bravo, bravo. Le Boys Club européen a réalisé qu'il fallait ouvrir la porte un peu au marché américain. GM va rentrer avec beaucoup de force, beaucoup de passion, désireuse de bien faire, mais de la bonne façon. Et ça crée deux nouveaux postes qui devraient ouvrir la porte à des jeunes pilotes.
C'est une 11e écurie en F1, c'est ça?
Exactement. 10, c'était pas assez. Tu le sais, je te l'ai dit souvent. Alors, bravo. Ah oui, alors pour revenir à ma date, je vais donc avoir le plaisir de partager la table du lunch, ou enfin du lunch un peu tardif, avec Madame la directrice et co-animatrice de votre émission.
C'est incroyable.
Incroyable, mais pour toutes les fois où on s'est dit, il faudrait bien que ça arrive un jour. Alors, nous allons à Serra by Birreria.
Oh là là!
C'est la belle verrière qui surplombe le Italy. Le Italy, cependant, plus au nord, là, parce qu'il y a un Italy tout moderne juste en face de moi ici, près de Ground Zero. Mais le Italy d'origine, là, Flatiron, c'est là où on va.
Qui est de toute beauté aussi. Là, vous allez faire des jaloux là, à Québec, c'est sûr. Mm.
Ah, écoute, et puis cette verrière-là, elle est extrêmement belle. Évidemment, c'est plus agréable en été, là, mais il y a quand même un beau soleil, donc ça surplombe. Et puis voilà. Alors, tu vois, c'est on joint l'utile à l'agréable, mais ce sera quand même un lunch professionnel.
Oh, ben là, je sais pas trop. Là, c'est le Thanksgiving. Le match de demain est à 13h. À RDS, je pense qu'il n'y a pas de couvre-feu. Amusez-vous, Pierre, là.
Denis, il faut toujours que tu te rappelles que je casse la croûte avec une cliente.
Là, envoyez-nous des photos, Pierre. Là.
Ah, OK. Ça, on a le droit, oui.
Oui, okay. Quand vous allez avoir fini l'aspect business, là, les photos vont devenir intéressantes. Là.
Bon, d'accord. Alors, on va régler l'aspect business avec un verre d'eau pétillante pendant 7-8 minutes.
C'est parfait. Avec une petite partie de citron, n'oubliez pas ça.
On passera à autre chose. Oui, et on passera à autre chose ensuite.
Hey, amusez-vous, portez une coupe de toast à notre santé. Bon Thanksgiving, Pierre, puis bonne fin de semaine.
Merci. Alors, n'oubliez pas les heures différentes. Le match demain à New York est à 13h, 12h30 l'avant-match. Et je vous l'ai déjà dit là, pour le match à Boston dimanche.
Les deux du côté de RDS. Merci, Pierre-Houd.
Salut, bye, bon week-end.
Salut.
Vous écoutez Gravel dans le